Merci d'avoir choisi ce rendez-vous. Voici le sommaire de ce journal. Aucune entente entre la société Rainbow et d'exploitation des minerais n'est envisageable avec le gouvernement du Burundi sans que cette société ne rapatrie les devises pour les minerais vendus. C'est la déclaration du chef de l'État au sujet des sociétés dont les licences ont été suspendues si elles porteraient plainte. Alors que la décision prise contre les 25 élèves qui auraient détruit certains locaux à l'école Green Hill International College de Gitega sont gardés secrets. 3 élèves ont été renvoyés durant une semaine pour avoir cassé les vitres, vous l'entendrez. Et les massacres de 1988 en Nega et Marangara devraient servir de leçon à couper court aux actes de disparition et de traitement inéquitable de la population. C'est l'avis de certains participants dans une réunion préparatoire des enquêtes dans ces localités ce jeudi. Voilà l'essentiel de ce journal. François Akimana assure la mise en onde. Au micro, vous retrouvez Jean de Dieu Irakoze. Bienvenue.
Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel.
Bienvenue dans les détails. Certains politiciens dénoncent l'existence des comportements, notamment des disparitions des personnes et des gestions inéquitables envers la population. Ces hommes politiques estiment que les massacres de Nega et Marangara de 1988 auraient dû servir de leçon à leurs auteurs. Ils l'ont soulevé ce jeudi lors d'une réunion préparatoire des enquêtes qui seront menées dans ces communes, organisées par la Commission Vérité et Réconciliation du Burundi, CVR. Pierre Claver-Ndayishariye, président de la CVR, ne nie pas l'existence de tels actes, mais considère que l'important est l'activation des services chargés de prévention de l'apparition des premiers signes précurseurs. Clovis Nyonguru pour les détails.
Après que Pierre Claver-Ndayishariye, président de la Commission Vérité et Réconciliation CVR, a demandé aux participants à la réunion comment les autorités administratives de Nega et Marangara cohabitaient avec la population avant que les massacres de 1988 ne surviennent, Agathon Gwasa, l'un des acteurs politiques du Burundi, a réagi. Il a estimé qu'il ne fallait pas se limiter aux faits du passé, mais qu'il était tout aussi nécessaire d'observer ce qui se passe aujourd'hui. Selon lui, certaines attitudes persistantes, notamment la gestion inéquitable envers les citoyens, pourraient engendrer de nouvelles tensions au sein de la société.
Dans toute société, certains comportements apparaissent comme une gestion injuste des accusations. Si des manipulateurs s'y ajoutent, cela peut devenir une véritable catastrophe. Nous devons être vigilants par rapport à ce que nous observons aujourd'hui. Plus jamais ça ne concerne pas seulement le passé, mais aussi le présent. Lorsque l'on entend parler des personnes disparues ou des cadavres retrouvés, cela ne peut en aucun cas consoler les Burundis. Les citoyens ont le droit de dire que quelque chose ne va pas. Pourtant, ensuite, les autorités accusent souvent ces personnes d'être des collaborateurs des colons. Avant chaque grande crise, comme celle de Nega et Marangara, il y a d'abord une manipulation de l'opinion.
De son côté, Pierre Claver-Ndayishariye a rappelé qu'aucune violence ne peut éclater dans un pays sans qu'il n'y ait au préalable des signes précurseurs.
Les massacres ne surviennent jamais sans signes précurseurs. La question est de savoir si nous comprenons réellement l'apparition de ces signes et si ceux qui sont responsables de l'anticipation et de la prévention les prennent au sérieux. Celui qui nous a mis en garde nous a demandé d'observer ces signaux dans notre pays et même au-delà. C'est ce que l'on appelle la géopolitique internationale, la géopolitique régionale et la géopolitique nationale.
À l'adresse de ceux qui continuent d'affirmer en évoquant que ce sont les Tutsis qui ont tué, d'autres disent que ce sont les Hutus qui ont tué, ce président de la CVR a conclu en rappelant que ce ne sont pas les ethnies qui tuent, mais plutôt l'être humain.
Clovis Niyonguru. Il ne peut y avoir aucune entente entre la société Rainbow d'exploitation des minerais avec le gouvernement du Burundi sans que cette société ne rapatrie les devises issues des 2000 tonnes de minerais qu'elle a mises au marché. Réponse du président de la République du Burundi à la question de savoir ce que sera le comportement du Burundi une fois que les sociétés d'exploitation des mines pour lesquelles les contrats ont été suspendus porterait plainte. Suivez-les.
Tu parles des sociétés exploitant les minerais suspendus, entre autres la Rainbow Mining. Laisse-moi m'expliquer sur cette société pour mettre au courant les Burundais. Moi, je ne trouve pas que cette société peut porter plainte sur cette suspension parce que j'ai constaté que leur contrat avait des lacunes. Comment ? La société Rainbow Mining International, connue sous le nom de Rainbow International Sussex, a demandé l'adhésion dans le projet d'exploitation des minerais. Elle s'était convenue avec le gouvernement du Burundi de se faire un contrat de mise en place d'une société mixte d'exploitation minière. Dans ce contrat, le gouvernement du Burundi devrait recevoir 10% du capital social de Rainbow et c'était à Rainbow de donner le capital à la société mixte et ce capital serait la possession de cette société mixte. Autre chose, la Rainbow avait déclaré avoir fait des recherches sur les terres rares. Elle devait donc remettre le permis d'exploitation en sa possession à la société mixte mise en place et finalement, après la mise en place de la société mixte, la Rainbow n'a pas donné le capital social et n'a pas amené l'argent qu'il fallait pour exploiter ces minerais. Nous n'avons pas à notre connaissance, jusqu'à maintenant, un procès verbal de la mise en place des organes de cette société mixte. Au contraire, la société mixte mise en place s'est comportée comme un rempart protégeant les intérêts de Rainbow. Elle a mis au marché 2000 tonnes d'où elle doit d'abord rapatrier l'argent issu de ces minerais mis au marché pour d'autres négociations.
C'était le chef de l'État burundais Evariste Ndayishimiye, traduit en direct par Omer Ndouayo. Je vous le disais dans les titres, trois élèves de la classe de 10e année à l'école Green Hill International College de Gitega ont été sanctionnés par envoi d'une semaine. Ils sont accusés d'avoir cassé des vitres, selon le représentant légal de cette école qui précise que cela n'a rien de commun avec le dossier de 25 élèves de la même école récemment emprisonnés puis libérés sous accusation de destruction de certaines infrastructures scolaires. Cette autorité scolaire ajoute que les décisions arrêtées après la demande du ministre de l'Éducation de statuer sur ce dernier dossier restent confidentielles. Le point avec Gérard Nivikir.
Le représentant légal de l'école Green Hills International College de Gitega, Rodrigue Ndayishimiye, indique que ces trois élèves, tous de la classe de 10e année, ont cassé des vitres par mégarde. Et comme il y a des sanctions qui sont infligées à celui qui casse des vitres, il a été question d'infliger à ces élèves un renvoi de 7 jours pour qu'ils regagnent l'école mercredi prochain avec paiement des vitres cassées, explique Rodrigue Ndayishimiye. Il précise en outre que ce cas n'a rien de commun avec le cas de 25 élèves de la même école qui ont été récemment emprisonnés puis libérés sous accusation de destruction de certaines infrastructures scolaires dans la nuit du 22 au 23 octobre dernier. Il révèle que ces 25 élèves se comportent bien actuellement et leur demande d'aller toujours de l'avant, tout en remerciant vivement leurs parents pour des conseils qu'ils leur auraient prodigués. Il précise que des éléments de la police sont actuellement affectés à cette école pour le renforcement de sa sécurité. Cela étant, Rodrigue Ndayishimiye ajoute que le conseil de discipline a tenu une réunion pour statuer sur le cas de ces 25 élèves et un procès verbal dont le contenu est secret a été transmis au ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique ce vendredi 14 novembre, comme l'avait exigé le ministre François Havyarimana. Rodrigue Ndayishimiye, représentant légal de l'école Glen Hills International College de Gitega, termine en disant que l'école n'a plus de compétences de prendre des sanctions contre ses élèves accusés de destruction de certaines de ses infrastructures, du moment que le dossier est déjà dans les mains de la justice. Rodrigue Ndayishimiye signale que maintenant sont attendues les conclusions des enquêtes qui seront menées par les instances juridiques, comme l'a indiqué le ministre de la Justice, Kati Habga Artemon. Depuis Gitega, Jeanne Huguila pour la radio Isanganiro.
Dans la suite de cette édition, adoption ce mercredi par le Conseil des ministres d'un projet de loi portant organisation du secteur semencier au Burundi. Dans un extrait du compte rendu de ce conseil, Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État, explique que cette loi vise à promouvoir une agriculture durable et améliorer l'accès aux semences pour tous les producteurs. Je vous prie de l'écouter.
La loi semencière du Burundi, en vigueur depuis 2012, a constitué une avancée significative pour la structuration du secteur semencier. Cependant, pour répondre aux défis émergents et aligner le cadre législatif sur les objectifs de développement durable et de sécurité alimentaire du pays, une modification de cette loi s'avère nécessaire. Ce projet de loi propose une modernisation approfondie pour faire face à ces défis. En intégrant des innovations significatives et en renforçant les mécanismes de soutien, cette loi vise à promouvoir une agriculture durable, inclusive et résiliente. Elle soutiendra le développement agricole du pays en garantissant une production de semences de haute qualité, en améliorant l'accès pour tous les producteurs et en alignant les pratiques nationales aux standards internationaux. Le projet prévoit également des mesures incitatives et spécifiques afin d'attirer les investisseurs privés. Après échange et débat, le projet a été adopté avec, entre autres recommandations, de préciser qu'il s'agit des semences végétales.
C'était Jérôme Niyonzima, secrétaire général de l'État. La radio Isanganiro essaie de travailler professionnellement malgré la difficulté à traiter certains sujets. La déclaration est du président de l'Observatoire de lutte contre la corruption Olicom, Gabriel Lufsiri, alors que cette station célèbre ce mardi ses 23 ans d'existence. Il indique que cela a commencé à se faire sentir, surtout après la crise de 2015, en raison de la fermeture de certaines radios. Gabriel Lufsiri appelle les journalistes à surmonter la peur et à travailler tout en cherchant également le soutien des partenaires. On l'écoute.
L'information, c'est quelque chose de capital dans la démocratie, surtout l'information équilibrée. La radio Isanganiro, depuis sa création, on a suivi, on a participé, on continue à participer dans différentes émissions que vous organisez. Nous voyons que vous avez beaucoup contribué en matière de cohésion sociale, de développement économique, parce que quand vous donnez la parole aux experts, le pays se développe à travers des idées. C'est une bonne chose, mais ça a beaucoup changé depuis 2015. Je sais que vous avez souffert. Radio Isanganiro a fermé même ses portes. C'était un contexte très très hostile aux médias. Depuis lors, nous voyons qu'il y a une peur qui s'est installée chez la plupart des médias, dont même la radio Isanganiro. Il y a certaines informations actuellement qui ne sont pas diffusées. Prenons par exemple les investigations sur des dossiers importants. Je vous félicite pour cet anniversaire, mais aussi de former des vœux. Vous demandez de vaincre la peur. La deuxième chose, je vous demande de développer des partenariats avec toutes les forces vives de la nation, dont principalement la société civile. Le troisième élément important, il faut développer les projets génératrices de revenus qui vont beaucoup vous encourager ou vous avancer vers l'autonomisation de vos projets et programmes. Mais aussi faire des projets à long terme qui seront financés par les partenaires qui collaborent avec le Burundi.
Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à ce journal. Merci de l'avoir suivi, mais dans un instant, vous aurez droit à la revue de presse avec Jean Bosco Ndouimana.
Revue de la presse.
Bonjour ou bonsoir, cela dépend de votre zone d'écoute. Le Salon industriel 2025 pour la promotion du savoir-faire local, titre Burundi Echo. En effet, la 7e édition du Salon industriel a été officiellement lancée ce 11 novembre à Bujumbura, marquant l'ouverture de la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat et de l'industrialisation africaine. Cette édition offre ainsi une vitrine essentielle pour démontrer les progrès réalisés par les industries burundaises et sensibiliser le public à la diversité des biens produits localement, souvent méconnus, face aux produits importés, souligne son confrère. Interrogé par cet hebdomadaire socio-économique sur la difficulté des industriels à travailler ensemble pour produire des biens à forte valeur ajoutée, capables de s'imposer sur les marchés régionaux, le président de l'Association des industriels du Burundi, Juvenal Sakubu, a reconnu que la culture de l'union reste encore limitée au Burundi. Il estime que la collaboration entre investisseurs permettrait pourtant d'améliorer la qualité des produits, de renforcer leur compétitivité et peut-être même de bénéficier des avantages spécifiques de la part de l'Agence de développement du Burundi, ADB, note encore Burundi Echo. Vers la révision du Code des personnes et de la famille, annonce l'Agence burundaise de presse. En effet, rapporte l'ABP, le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique, à travers la Direction générale de l'administration du territoire, de l'éducation physique et de la collectivité locale, a entamé une série de consultations des parties prenantes sur la révision du Code des personnes et de la famille, pour avoir une loi qui cadre bien avec l'ère où le Burundi est. Parmi les nouveautés, l'introduction de l'informatique dans l'enregistrement des actes de l'état civil afin d'interconnecter tous les bureaux de l'état civil au Burundi. Il sera également revu à la hausse l'âge de la majorité matrimoniale pour parier le phénomène de la démographie galopante et le code des personnes et de la famille et la loi sur l'adoption seront combinés, souligne encore l'ABP. Parmi les propositions rapportées sur le quotidien, les participants ont suggéré que l'enregistrement des naissances et des décès se fasse à la formation sanitaire.
Revue de la presse.
Une quarantaine d'élèves chassés d'une école privée à Rumonge, rapporte l'agence Net Presse, qui précise que 42 élèves de la première année dans la section soins infirmiers du complexe scolaire Nouvelle Vision de Rumonge de la province d'Oburunga viennent d'être chassés de l'école parce qu'ils ont été accueillis sans l'autorisation du ministère, qui avait pourtant interdit à pas mal d'écoles privées qui organisent la section paramédicale d'accueillir de nouveaux élèves en première année. Le directeur a fait fi de cette note du ministère en faisant payer des frais d'inscription aux élèves, des frais qui vont jusqu'à 500 000 francs burundais. Les parents demandent que ce directeur soit puni conformément à la loi et que leurs enfants puissent embrasser d'autres sections similaires afin que cette année scolaire ne soit pas blanche. On termine cette revue de presse par cette remarque d'un blogueur du collectif Yaga qui se demande si au Burundi la justice scolaire se révèle comme un miroir des fractures sociales. Ce blogueur compare ce qui est en train de se passer au Green Hills International College de Gitega et ce qui s'est passé l'année dernière au lycée de Wusiga à Ngozi. D'un côté, un acte de vandalisme pur et prémédité, où dans la nuit du 25 au 26 octobre 2025, 25 élèves ont brûlé le bloc administratif et au bureau, archives, matériel, jusqu'aux caméras de surveillance et leurs précieuses mémoires sont partis en fumée. Des semaines plus tard, aucun renvoi n'a encore été prononcé. De l'autre côté du miroir, le vol de la faim. Il y a plus d'une année, rappelle ce blogueur, dans la nuit du 21 septembre 2024, sept élèves du lycée de Wusiga à Ngozi sont surpris en train de marauder des avocats. La riposte de l'institution fut foudroyante, un renvoi définitif. Parmi les exclus, deux élèves finalistes. Au-delà des faits, conclut ce blogueur du collectif Yaga, cette double affaire nous assène une leçon amère qui résonne bien au-delà des murs des salles de classe. Elle nous apprend que la justice scolaire n'est pas aveugle, bien au contraire, elle distingue avec une acuité troublante la couleur de l'uniforme, le prestige de l'établissement, l'épaisseur du portefeuille parental. Elle sait, avec une cynique clairvoyance, différencier un vol de survie d'un vandalisme délibéré et choisir sans hésiter lequel des deux écraser avec la plus inflexible sévérité, martèle ce blogueur du collectif Yaga. Et c'est la fin de cette revue de presse préparée et présentée par Jean Bosco Ndouimana. Restez branchés sur nos ondes.
Revue de la presse.